Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. 13 membres du Rassemblement de l'opposition ont signé mardi l'accord politique trouvé à l'issue du dialogue national. Willy Michiki, l'une des 13 personnalités qui ont signé cet accord, affirme que cette adhésion se justifie par le souci, je cite, d'éviter au pays un bain de sang. Fin de citation. Mais le Rassemblement des forces politiques acquises au changement affirme que ces personnalités ne font plus partie de leur plateforme. Et puis, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a demandé l'ouverture d'une enquête à propos du détournement systématique des fonds des ménages alloués mensuellement par le gouvernement aux policiers de la Légion nationale d'intervention LENI déployés à Mbaou en territoire de Béni. Voilà les deux thèmes qui réunissent les journalistes ce soir et je m'en vais saluer Luc Kabongatre et Mikomo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet ici à Kinshasa et vous êtes aussi éditeur du journal Nouveau Regard et président provincial de l'Association catholique mondiale pour la communication Stigmis. Jean-Pierre Kaimbe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et responsable de la presse en ligne à RTGA, un média de Kinshasa. Et Josca Kaninankole, bonsoir. Josca, vous êtes avec nous, bonsoir.
Je suis avec vous, bonsoir.
Vous êtes journaliste et éditeur responsable du journal Le Millénaire, paraissant à Bounia. Et je dis aussi bonsoir à Héritier Sidiakala qui assure la mise en onde de cette édition. Merci de nous avoir choisis. Et pour commencer, voici la revue de presse qui porte la signature d'Alain Irung, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par les 13 membres du Rassemblement de l'opposition qui ont signé mardi dernier l'accord politique. Rassemblement Willy Michiki rejoint le camp des signataires de l'accord politique. Titre La Prospérité. Le quotidien souligne que le président de la coalition Mai Mai et ses alliés, Prince Willy Michiki, ont signé mardi dernier l'accord du dialogue au bureau du secrétariat exécutif de la facilitation du dialogue politique situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Le tabloïd indique que cet acte a paru étrange aux analystes politiques penchés du côté de l'opposition. Le Phare confirme que la liste en circulation dans les salons politiques de Kinshasa est authentique. Le quotidien estime que les nouveaux signataires de l'accord ne constituent qu'un groupe d'opportunistes débauchés pour les besoins de la cause et ne sont donc pas représentatifs du rassemblement que dirige Étienne Tshisekedi. Les illusions de Willy Michiki note à sa une 7/7.cd. À peine qu'il a souscrit à la logique du dialogue de l'Union africaine, l'ancien Mai Mai Willy Michiki, poids politique zéro, dit les sites, prétend qu'au terme des négociations avec le pouvoir, la primature sera accordée à la fausse branche du rassemblement qu'il pense diriger. L'actualité est aussi marquée par les révélations du journal Le Soir sur la gestion de la BGFI Bank où sont logés des comptes de la CENI. Révélée en fin de semaine par le quotidien belge Le Soir, l'affaire des comptes de la CENI, logée à la BGFI, est mouvementée selon le même journal, de manière opaque, fait grand bruit dans les milieux politiques et financiers tant congolais qu'étrangers, écrit Le Phare. Qui titre « Tripatouillage des comptes de la CENI, Nanga interpellé ». Affaire BGFI Bank, la CENI rejette les accusations en bloc, titre pour sa part La Prospérité. Le journal indique qu'entre la CENI et le journal belge Le Soir, le point de non-retour a été franchi dans la bataille médiatique autour de l'affaire des millions de dollars affectés au processus électoral logé à BGFI Bank. Pour terminer, les journaux parus ce vendredi à Kinshasa reviennent notamment sur le meeting du rassemblement de l'opposition annoncé pour le week-end. Forum des As titre à la une, le rassemblement maintient son meeting de ce samedi. Parlant de l'interdiction de cette manifestation, l'Avenir note que Kimbuta reste ferme. Le tabloïd s'interroge si dans un pays où certains partis politiques ne se préoccupent guère de donner une formation appropriée aux militants, André Kimbuta, gouverneur de la ville province de Kinshasa, doit-il accorder l'autorisation au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour son meeting prévu le samedi 5 novembre prochain à Kinshasa?
Merci Alain Irung. Dans l'actualité, vous avez suivi, d'ailleurs dans la revue de presse de notre confrère, le quotidien belge Le Soir a publié des documents que lui a transmis Jean-Jacques Lumumba, chef du département des engagements à la BGFI Bank, présenté comme un petit-fils du premier ministre du Congo, Patrice Emery Lumumba. Ces documents font état des mouvement suspect vers un compte appartenant à la commission électorale. Entre mai et septembre 2016, note Jeune Afrique sur son site internet, plusieurs chèques ont été encaissés par la CENI pour un montant total de quelque 7,5 millions d'euros. Si la BGFI Bank dément être impliquée dans une quelconque malversation, le président de la CENI, lui, déclare, je cite, « Ce sont des transactions normales qui se sont faites par des gens ayant qualité à le faire pour le compte de la CENI. » Luc, vous avez suivi cette actualité, comment vous l'avez analysée?
Oui, dans un premier temps, j'étais un peu intrigué de ces révélations, mais je me dis qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que la presse ayant dénoncé une pratique qui heurte les bonnes mœurs, il faut à présent que la justice puisse se saisir de ce dossier pour qu'elle puisse mener des enquêtes et apporter la vraie lumière à la nation. Voyez par exemple ce qui se passe en Afrique du Sud. Plus d'une fois, Jacob Zuma a été mis en cause et la justice n'a subi aucune pression pour qu'elle ait la bouche et les oreilles bouchées, fermées. Il ne faudrait pas qu'un tel acte, une telle dénonciation faite par la presse puisse passer comme si de rien n'était. Récemment, nous avons entendu les révélations de Panama Papers. Notre pays était concerné, mais il n'y a pas eu de suite au niveau de la justice, me semble-t-il.
Jusqu'à aujourd'hui.
Sous d'autres cieux, il y a des ministres qui ont démissionné pour s'en remettre à la presse.
Merci. Alors, Jean-Pierre, vous avez aussi suivi cette actualité. Comment vous comprenez le fait que la BGFI Bank démonte ces allégations et que la CENI affirme que ce soit des transactions normales? Est-ce que c'est cohérent selon vous?
Bon, écoutez, moi, je voudrais commencer par saluer Luc Kabonga, un confrère pour qui j'ai beaucoup de considération, et notre ami qui est en ligne.
Josca.
Josca, j'ai suivi avec attention ces révélations scandaleuses. Je note que c'est une vaste campagne d'intoxication
contre la CENI,
qui a jeté de l'opprobre aussi bien sur la commission électorale que sur les pouvoirs en place. Et vous vous rendrez compte que toutes ces révélations ne viennent que de la Belgique. La Belgique qui présente Moïse Katumbi comme étant le chef de file de l'opposition.
Vous arrivez juste à ce niveau-là.
Et puis, même, vous avez suivi. Didier Reynders en appelait à des enquêtes internationales pour une affaire congolo-congolaise. Je n'ai pas compris l'irruption ou la précipitation.
Mais est-ce que la communauté internationale ne financera pas en partie ces élections parce qu'elle a aussi un droit à regard par rapport à ce qui se passe au niveau de la CENI?
Oui, je veux bien. Mais ce qui s'est passé, Corneille Nangaa a expliqué que c'est des transactions normales
que vous trouvez normales et logiques.
Des fonds qui ont été retirés par des personnes ayant qualité, des fonds alloués au fonctionnement de la commission électorale, au paiement de ses employés.
Donc pour vous, c'est
et
cohérent.
Et à l'achat d'autres matériels. Mm-hmm. Donc, je comprends que le compatriote qui a fait fuiter cette information, je comprends le souci qu'il a. Je comprends qu'aujourd'hui, les Congolais commencent à comprendre de plus en plus. Il y a ces sentiments patriotiques qui s'installent. Mais ce qui ne va pas, c'est quand, à un moment donné, on est à la solde de puissances obscures, on cherche à tout prix à discréditer un régime pour lequel ils ont une campagne anti depuis bien longtemps. Donc, je considère que ces révélations ont été faites. Évidemment que les explications de Nanga n'excluent pas ce que la justice s'y saisisse. Encore qu'on a suivi la réaction de BGFI Bank. Kabila n'est pas client à la BGFI Bank. Mais bon, que le procureur se saisisse et que lumière soit faite autour de cette affaire rocambolesque qui prive du sommeil, je veux dire, à plus d'un dans certaines capitales.
Et donc, vous remettez en cause les révélations du journal Le Soir. C'est bien. Jusqu'à Kalinda, plusieurs observateurs affirment que c'est un scandale dans la mesure où la CENI dit attendre les moyens pour organiser les élections dans les délais constitutionnels, mais au finish, qu'elle n'en organise pas. Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que ce n'est pas le temps et le moment de politiser ce qui n'est pas politique.
Ce n'est pas, on ne peut pas nous dire que c'est la première fois que les fonds sont levés dans le compte de la CENI. Si aujourd'hui ça pose problème, il n'y a pas de fumée sans feu. Je rejoins le confrère Kabunga Tré qui a dit que il faut que la justice se saisisse d'office de ce dossier et qu'on enquête. J'ai appris aussi que le Parlement veut aussi enquêter sur ce dossier.
Bien
sûr. Il faut le faire. On ne doit pas voir partout la politique. Ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire de finances. Il faut voir si les finances du pays ont été mal gérées, qu'on sache qui l'a fait et qu'on puisse les punir. Il n'y a pas à politiser l'affaire.
Mais justement, puisque vous avez été de même bref, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous aujourd'hui à Bounia?
Chez nous, l'actualité, c'était hier, les jeudis ici, le collectif Filimbi Ituri avait invité les gens à participer à une télé d'échange dans la salle des Pères Blancs, mais la manifestation a été empêchée par les agents de l'ordre. Et aussi, cette manifestation devait seulement faire apprendre aux gens ce qu'est le mouvement citoyen Filimbi. Il y a aussi plus de 40 000 réfugiés qui sont localisés au nord de l'Ituri, c'est-à-dire vers la région de Haro là-bas. On a commencé à déplacer de la frontière sud-soudanaise vers la localité de Biringi pour éviter qu'ils ne soient à côté de leur pays et pour qu'ils puissent continuer à influencer la guerre dans leur pays. Enfin, il y a le ministre provincial de l'EPST, M. Dieudonné Ngadjolé, qui a été interpellé par l'Assemblée provinciale parce que les frais scolaires de la province, qui étaient exigés par la province, sont passés du simple à plus du triple. Donc, par exemple, un enfant de la maternelle qui payait l'année passée 1 500 francs pour les frais de l'État, qui paye cette année 4 000 francs. Alors, les députés provinciaux l'ont invité pour essayer de s'expliquer et le ministre a promis de s'expliquer en long et en large le samedi.
Merci beaucoup pour ce tour de l'actualité à Bounia et on rentre ici à Kinshasa et même ça concerne la nation entière. L'actualité, c'est ce rendez-vous sportif qu'attendent les Congolais. La finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF qui opposera le tour puissant Mazembe à Mouloudia Olympique de Beija d'Algérie ce dimanche 6 novembre au stade de Kamalondo à Lubumbashi. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul d'un but partout. C'était le samedi 29 octobre à Blida en Algérie. Jean-Pierre, comment vous avez analysé la prestation au match aller des Congolais?
Non, une bonne prestation. Mazembe avait intérêt à ne pas perdre à l'étranger, d'autant que dans son temple de Lubumbashi, l'équipe a toujours fourni beaucoup d'efforts pour ne pas encaisser. Donc, je considère que les Corbeaux sentent déjà la victoire à cette finale retour. Le signal qui a été rétabli, le match qui sera retransmis sur la télévision nationale. Je souhaite toutes les bonnes chances. Je comprends l'ossature de l'équipe. Je comprends le sérieux que son président et tout son staff ont mis dans la préparation. Donc Mazembe qui n'a pas eu de chance pour la Coupe de la Ligue des Champions, mais sérieux, je suis convaincu que la Coupe de la CAF restera ici.
Et donc, pour vous, si vous devez pronostiquer?
C'était match 2-0.
Merci.
2-0.
Luc, vous avez aussi suivi ce match-là. Quelle chance donnez-vous aux fauves congolais au match retour?
Toutes les chances, de manière formelle, seraient de notre côté. Hélas, le football n'est pas de la mathématique. Je pense que le tout-puissant Mazembe a fait un bon score à l'extérieur et qu'il ne doit pas dormir sur ses lauriers. Il doit maintenant capitaliser les chances qui sont de son côté de façon à ce que, une fois de plus, qu'il nous procure le sourire, parce que le sourire est devenu rare chez nous, Congolais, mais que le foot nous apporte le sourire. Il y a autre chose qui m'a intrigué. J'ai vu que le match a été retransmis. Mmh. Bravo à monsieur le ministre de Sport et de la Jeunesse. Et il est apparu plus d'une fois un personnage qui fait l'actualité ici chez nous. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi avait quitté le pays pour aller en Afrique du Sud pour raison de santé. Après l'Afrique du Sud, il s'est retrouvé en Europe et il n'est jamais revenu. Mais on le voit dans les images, à l'extérieur, présent à la tribune. Et donc, sa présence m'a un peu interrogé. Que se passe-t-il avec Moïse Katumbi? Est-il devenu un exilé politique.
Question qu'on lui posera dès qu'on l'aura soit au téléphone, soit à n'importe quelle occasion. Alors, Josca Kalinda, est-ce que pour vous, ce score de 1-0 qui a sanctionné le match aller n'est pas un score piège?
Moi, je pense que c'est un score qui met toutes les chances du côté des Mazembe parce qu'ils ont eu ce score loin de leur contrée. Je pense que maintenant qu'ils vont jouer devant leur public, ils auront plus de chances d'améliorer et peut-être même de gagner. Nous devons tous, moi je pense, j'invite tous les Congolais d'être derrière Mazembe. En ce moment de crise politique, je pense qu'il n'y a que le football qui peut nous redonner encore sourire et nous faire oublier des troubles politiques qui sont dans notre pays.
Et votre pronostic?
Alors moi je donne 1-0.
Merci. Merci beaucoup et c'est sur cette note que nous allons entrer dans notre premier thème de la soirée qui concerne l'adhésion à l'accord politique. 13 membres des regroupements et partis politiques de la plateforme Rassemblement ont signé mardi l'accord politique issu des assises de la Cité de l'Union africaine au bureau du facilitateur du dialogue national, conduit par le président de la coalition Ounama Maïmaï et Allié, membre du groupe des sages du Rassemblement. Ces regroupements et partis politiques justifient leur adhésion à l'accord par le souci d'éviter un bain de sang au pays. Écoutons à ce sujet Willy Michiki, l'un des signataires de cet accord.
Nous ne sommes qu'un petit échantillonnage de ceux-là qui ont pensé qu'il faudrait éviter le bain de sang au pays. Notre démarche est une démarche républicaine, patriote. L'histoire retiendra qu'il y a eu quelques compatriotes qui ont sauvé le pays du chaos. Nous réitérons notre soutien au notre président, Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba, que nous voudrions bien libérer, puisqu'il est otage de certaines forces obscures qui aujourd'hui ne regardent que leurs intérêts. Nous avons estimé que dans notre organisation, le plan A ayant échoué, il fallait exploiter le plan B. Le plan B consistait aujourd'hui à voir comment nous pouvons mener les mêmes combats à l'intérieur de cet accord. Et avant d'adhérer, on n'est pas entré comme ça, nous avons négocié pendant plus d'une semaine avec les amis de la Cité de l'Union africaine et particulièrement de la majorité au pouvoir. Et je dois vous dire, ce n'est pas un secret, nous avons obtenu, un, la primature va revenir au Rassemblement.
Et en réaction, Jean-Pierre Lissanga Bunganga, coordonnateur de la plateforme Le Rassemblement, a fait savoir que ce que Willy Michiki et son groupe ont fait n'a rien à voir avec leur plateforme. Écoutons les détails qu'il apporte.
Aujourd'hui, chercher à débaucher auprès du Rassemblement, ça ne va nous avancer à rien. Deuxième élément, depuis dimanche 30 octobre, les alliés autour de moi-même, on a pris l'option de radier Willy Michiki du grand regroupement de la coalition des alliés de Étienne Tshisekedi. C'est-à-dire, ce qui se passe avec Willy Michiki n'a rien à voir avec les rassemblements et n'engage en rien les rassemblements. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle organisation, dans sa nouvelle entreprise. Prise avec les amis de la majorité qui la résume maintenant d'une manière officielle. Le rassemblement est dans une démarche normale. Hier, la délégation du rassemblement a rencontré la délégation du bureau de la CENCO. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens, non pas d'aller signer cet accord tel que vous êtes en train de le dire, mais de chercher des voies et moyens pour qu'on ait le vrai dialogue.
Merci à Jeff Ngoé qui a signé ce dossier. Vous nous captez à l'instant. Je rappelle que Luc Mikomo Kabonga, très journaliste à Congo Web Télévision, une télévision émettant à Kinshasa et éditeur du journal Nouveau Regard, ainsi que président provincial de l'Association catholique mondiale pour la communication Signis, Jean-Pierre Kayembe, journaliste et responsable de la presse en ligne à RTGA, un média de Kinshasa, et Josca Kalinda, journaliste, éditeur, responsable du journal Le Millénaire paraissant à Bounia, sont les invités de Berry Franklin Luchaka dans cette tribune de presse de vendredi 4 novembre 2016. Alors, une première question à vous, messieurs. Comment vous avez accueilli cette actualité? Luc, très rapidement.
Ce qui est arrivé est à l'image de la praxis politique de notre pays. Moi, personnellement, cela ne m'étonne pas, d'autant plus que, si vous avez lu l'accord, il y a une des dernières dispositions qui l'ouvre à ceux qui n'ont pas participé physiquement aux assises de la cité de l'OIA.
Je vous redonne la parole. Jean-Pierre, comment vous avez analysé cette actualité?
Michiki est pragmatique. Michiki refuse qu'il y ait bain de sang.
Très bien.
Il pense qu'il est possible de sauver le processus électoral, de privilégier la paix. Donc c'est ce qu'il a fait. Qu'on les qualifie aujourd'hui des menus frétins, mais on ne disait pas de lui menus frétins quand il était au rassemblement.
Merci. Josca Kalinda, comment vous avez analysé cette actualité chez vous à Bounia, très rapidement?
Moi, j'ai toujours dit que les politiciens congolais, pour la plupart, font la politique pour leur propre survie. Et ceux qui font la politique pour leur propre survie sautent sur toutes les occasions qui leur permettent de se repositionner politiquement. Voilà comment j'ai dit ça.
D'accord, très bien. Alors, je reviens à vous, Luc. Vous dites que c'est la pratique politique dans notre pays, mais est-ce que vous comprenez finalement la position de Willy Michik, et surtout que Jean-Pierre venait de dire tout de suite que beaucoup l'ont qualifié de menu frétin, mais c'est quelqu'un de pragmatique.
Moi, je connais personnellement Willy Michiki en tant que Maïmaï, en tant que combattant. Ben, j'en fais raisonnablement deux lectures. Puisqu'il a dit lui-même que le plan A a échoué, il fallait exploiter un autre chemin.
Qui est le plan B?
Qui est le plan B qui vient de...
Se battre à l'intérieur de l'accord politique.
Voilà. Mais je sais également... comme l'écrivait Jean-François Bayard, la politique du ventre, que la misère étant, il y a des non-politiques qui ne supportent pas d'être en marge des commandes politiques. Et ces derniers font tout pour, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, entrer dans la commande. Il y a un professeur, Prosper Goubarika, il écrivait dans son roman « Rends-la-moi ma rose », lui dit ceci, tenez. Le plus moche dans la vie réside dans l'inconscience délibérée de son inéluctable finitude.
Mais au-delà de tout ça, de toutes ces considérations scientifiques que vous apportez à la position ou à ce que Willy Michik est en train de faire, comment vous comprenez la position de Michik? Est-ce que vous êtes d'accord avec le professeur qui a parlé de la politique du ventre ou bien vous êtes dans un autre schéma?
Le tout va ensemble. On sait que Willy Michiki vient de faire la prison.
Et vous pensez qu'il a vraiment faim?
Il a véritablement faim, pas lui seulement. Même ceux qui disent non au dialogue ont aussi faim, parce que dans notre pays, tout le monde a faim.
Et ça dépend de la personne, de la famille de quelqu'un pour aller vite au mets.
Non, il s'agit de l'exploitation des opportunités. Lorsque une opportunité s'offre, les plus rapides sautent.
En premier.
Et ils en tirent leur dividende.
D'accord. Alors, Jean-Pierre, vous avez entendu les arguments qu'a avancé Luc. Comment vous analysez cela?
Je plains.
Certains de nos compatriotes qui disent ne pas connaître Prince Willy Michik. Soit on a une courte mémoire. Michik a été ministre dans ce pays.
Mais Michik n'a pas été Maïmaï. Baron.
Maïmaï, oui, c'est son passé. Évidemment qu'il a fait la prison. Mais Michik n'est pas, enfin... n'est pas un misérable. Dans ce pays, c'est quelqu'un qui est proche de plusieurs milieux diplomatiques.
Et pour vous, il n'a pas faim?
Je ne pense pas qu'il ait ratifié l'accord de la cité de l'Union africaine parce qu'il a faim. Mais parce qu'il est hanté par ses soucis de sauver le pays. Michiki est cofondateur de la charte de Genval. Il a participé à la naissance du rassemblement.
Mais lui-même affirme, il a dit lui-même dans le dialogue entre Congolais du mercredi dernier que les amis de la majorité à la cité de l'Union africaine ont convenu qu'ils vont donner le poste de Premier ministre au rassemblement. Donc sous-entendu, lui, entre guillemets.
Non, j'ai personnellement couvert cette signature de l'accord. Il a dit que le poste reviendra. D'après les négociations qui ont été menées, que le poste reviendra au rassemblement.
Mais est-ce que c'est un problème de poste de Premier ministre ou c'est un problème de pouvoir réfléchir sur la fin de la crise?
La fin de la crise passe par des concessions. Faire des concessions, c'est-à-dire, en théorie, des négociations. Moi, je concède, je viens, j'adhère, j'apporte un discours paisible en contrepartie. Comme nous avons pensé que le gouvernement sortant
on te donne un gâteau,
n'a pas pu organiser les élections, confiez-nous cette tâche et nous nous ferons de notre possible pour organiser au fur et au pays des élections crédibles et transparentes, d'autant plus que l'accord politique prévoit que le poste de Premier ministre reviendra à l'opposition signataire de cet accord politique. Je ne pense pas qu'il soit important aujourd'hui de diaboliser Prince Willy Michiki. C'est quelqu'un qui pense qu'il est possible de combattre de l'intérieur.
Donc
ce qu'on
n'a
pas pu obtenir par des manifestations pacifiques, ce qu'on n'a pas pu obtenir par des meetings et des villes mortes, on peut l'obtenir en étant au sein du gouvernement. On peut obtenir la libération des prisonniers politiques.
Est-ce que ça
signifie... On peut obtenir la réouverture des médias.
Oui, est-ce que ça signifie que vous êtes divergent avec le rassemblement lorsqu'ils affirment que c'est une stratégie de la majorité de débouchage au sein du rassemblement?
Et quand on quitte la majorité, on va à l'opposition. Tumbaloba est désormais membre de l'opposition. On n'en parle pas.
Est-ce François qu'il a déjà Mamba, été de la majorité?
François Mamba a été depuis un temps proche de la majorité. Il a basculé dans l'opposition. Là, on applaudit. Mais quand c'est le sens inverse, on crie à la diabolisation. Mais je crois qu'à un moment donné, nos politiques doivent être honnêtes. Ils doivent comprendre qu'à un moment donné, il faut être pragmatique. Il faut se dire que ce chemin est suicidaire. Michiki a compris qu'il faut suivre plutôt la voie de la raison.
Très bien, je reviens à vous. Alors, Josca, vous avez suivi les arguments de Luc qui affirme que Willy Michiki a vraiment faim, c'est pour ça que peut-être qu'il a signé cet accord, et Jean-Pierre qui estime que Willy Michiki est pragmatique. Quelle est votre analyse à votre niveau?
Moi, je pense que j'ai eu la chance ou le privilège d'avoir connu Willy Michiki pendant la rébellion. C'est un monsieur audacieux et courageux. Je me rappelle qu'il a été, comme les représentants de tous les chefs coutumiers de l'Est, les avait amenés à Grenada pour l'histoire qui concernait la Banque centrale de la rébellion à l'époque. C'est le même Willy Michiki qui a bâti campagne pour Jean-Pierre Bemba en 2006 du côté Est. Et c'est un monsieur qui est capable de beaucoup de choses. Il aime faire le spectacle et s'offrir un spectacle aussi. Mais la question que moi je pose, pour ne pas parler de la fin ou de quoi, je pense qu'on ne doit pas flouer les choses. Les dialogues ont déjà eu lieu et les résolutions sont là pour qu'ils soient mises en pratique. Et si on veut nous faire croire que quand ils vont entrer dans l'accord là, ils vont changer quelque chose. Ils ne vont changer rien, ils vont seulement mettre en application ce qui a été déjà décidé au dialogue. Donc, l'entrée des Willy Michiki dans l'accord ne changera pas la mise en pratique des résolutions. Moi, je pense aussi que le problème, les amis de la mouvance du côté du président de la République doivent savoir les poids politiques et la proportion des Congolais qui sont influencés par des gens qui se disent opposants. Il ne faut pas qu'on desserve les chefs de l'État en lui envoyant des gens qui ne vont pas changer la donne sur le terrain. Willy Michiki peut partir avec ces gens, mais combien de Congolais seront influencés par le départ de Willy Michiki? Je ne pense pas que ça représentera une grande proportion. Ça sera des jeux inutiles qui vont nous faire traîner dans des querelles au lieu de trouver la solution. Si la majorité a besoin de prendre les gens dans l'opposition, qu'on prenne des gros poissons, des gens qui ont l'opinion publique avec elle, des gens qui peuvent mobiliser des masses, qui vont décrisper la crise au Congo.
Oui, et donc vous êtes d'accord avec le rassemblement qui estime qu'il s'agit là de la stratégie de la majorité de débaucher au sein de l'opposition ou du rassemblement?
Moi, je pense pas que c'est la majorité qui fait le débauchage. Moi, je pense que ce sont les opposants, qu'on va dire un confrère là, souciés de se repositionner, qui pensent que, comme les gros ne viennent pas, ils peuvent aller pour gagner des postes et être au gouvernement. Mais quand ils seront au gouvernement, ils n'auront rien changé par rapport à l'opinion publique congolaise. Moi, je pense que c'est là qu'il faut rester stable et comprendre que le Congo a besoin que les deux camps, les deux, parce que quand on se voit ça la face, le Congo est aujourd'hui bipolarisé. Il y a les camps de ceux qui sont contre l'accord, il y a de ceux qui sont pour l'accord. Il faut aller avec les gens qui ont l'opinion publique, qui se parlent et qui décrispent la population et le climat politique. On peut tout dire qu'il y a des opposants, l'opposition est ici, mais il y a des opposants. Moi, je ne pense pas que Willy Michiki peut donner un mot d'ordre à Waikale et les gens vont se mettre debout. Je ne pense pas.
Merci.
Il faut qu'on trouve des gens qui vont véritablement permettre que la situation et le climat politique du pays soient décrispés.
D'accord. Je vois Jean-Pierre Kaimé dans ce studio qui est totalement en désaccord avec vous. Luc, vous vouliez intervenir à un moment, mais je voulais vous poser quand même cette question. Vous avez entendu Josca affirmer que Willy Michiki qui est courageux et audacieux. Est-ce que dans la même logique, lorsque Willy Michiki affirme, je cite, « Nous voudrions libérer Étienne Tshisekedi parce qu'il est otage de certaines forces obscures qui aujourd'hui ne regardent que leurs intérêts. » Vous pensez que c'est dans la même logique que ce que vient de dire Josca Kanida?
En fait, ce que j'ai apprécié dans le propos de Josca, il dit que Willy Michiki aime faire le spectacle, c'est-à-dire le cirque. Donc, sur ce point-là, j'affirme haut et fort cette théorie qui est développée par Jean-François Bayard de la politique du ventre. Je dis que...
Et qui est en total désaccord avec ce que Jean-Pierre Kayembe a fait.
Oui, Jean-Pierre Kayembe est en train de faire une vue d'esprit. Peut-être il est en train de caresser dans le sens de poil son Willy Michiki qu'il connaît assez bien. Et moi je dis modestement que je le connais également. Je sais encore, comme le dit le confrère de l'Est, que Willy Michiki, sur la balance politique nationale, il ne pèse pas véritablement.
Et il ne représente rien.
Et donc, il ne va pas modifier la donne sur le terrain, même si on lui confiait la primature, j'en suis vraiment convaincu qu'il ferait piètre figure.
D'accord. Alors, Jean-Pierre, vous voulez réagir?
Non, je suis parfois écœuré quand on pense que tel pèse, tel ne pèse pas.
Ça compte, hein.
Je veux par exemple Olivier Kamita te dire que le ralliement d'une poignée de faux naïfs est salutaire pour le rassemblement qui est expurgé des opportunistes et des esprits les plus faibles. Mais c'est au rassemblement qui a le plus grand opportuniste si on prend le parcours de chacun. Olivier Kamita, par exemple, vous savez dans combien de partis il a été? François Mamba qui est pressenti aujourd'hui si jamais les choses marchaient, premier ministre du rassemblement. Vous savez par où il a été? Est-ce
et
qu'on connaît l'histoire de chacun de membres?
On sait aussi comment c'est ceux qui sont au pouvoir sont arrivés là-bas.
Donc, crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas jouer à la diabolisation, ça ne sert à rien. Michi qui est un leader d'opinion, Michi qui a été élu en 2011, bien qu'invalidé un peu plus tard. Donc c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, c'est quelqu'un qui pèse, c'est quelqu'un qui connaît tous les méandres
et
politiques.
Est-ce qu'il peut faire changer les choses sur terrain? C'est ça la préoccupation.
Une seule personne ne fera jamais changer les choses.
Même les traits avec
dynamique. Il faut une dynamique. Michi qui vient s'allier à Kamer et à tous les autres. Comment expliquer, je le disais dans ce studio il y a une semaine, que des gens qui, il y a moins d'une année, étaient encore kabylistes, se disent aujourd'hui plus opposants que Michiki, qui est centriste depuis bien longtemps. Qu'ils se disent aujourd'hui plus opposants que Kamere, qui est dans l'opposition, qui a même renoncé à de responsabilités juteuses. Non, c'est malhonnête. C'est malhonnête, je crois qu'ici, il n'est pas question du positionnement, il n'est pas question de la politique du ventre, il est question de l'intérêt national.
Alors, pour conclure, avec la position de Willy Michiki aujourd'hui, est-ce que quelque chose peut changer sur le terrain? C'est ça la question pour
fondamentalement,
conclure.
La donne change.
Très bien. Luc.
Je suis tout à fait opposé au point de vue de mon confrère.
Donc, pour vous, rien ne va changer.
Je crois qu'il se pose chez nous véritablement un problème d'éthique politique.
Valentin Moubaki a dit dans ce studio que c'était un vagabondage politique.
Voilà, par exemple. D'ailleurs, dans les cas qu'il cite, les Kamita Tou, les François Mwamba, il me rejoint quand je dis qu'il y a des opportunistes sur notre scène politique.
Qui ont vraiment faim.
Il n'y a pas véritablement des politiques conscients de ce qu'ils font en politique et conscients de ce qu'ils peuvent amener comme apport pour changer la donne sur le plan politique national.
Très bien, donc pour vous, rien ne va changer.
Par rapport à la position de Michiki.
Exactement. Alors, voilà. Josca, par rapport au ralliement de Michiki à l'accord politique, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer rapidement parce qu'on va conclure sur ce premier thème et entrer dans le deuxième thème?
Notre confrère, vous savez vous-même qu'on a confié la mission des bons offices à la CENCO. La CENCO est en train de conférer avec les rassemblements. Alors même que la CENCO n'a pas fini sa mission, on ne sait pas si les rassemblements vont adhérer ou pas. Ici, qui saute le premier, je pense que ça ne va rien changer. Parce que si demain, par exemple, la CENCO réussit à convaincre les rassemblements, qu'est-ce que deviendra Willy Michiki?
Merci. Question posée. C'est cette question qui nous introduit dans la deuxième partie de notre émission de ce soir qui concerne encore une fois le détournement des fonds. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a demandé l'ouverture d'une enquête sur un détournement systématique des fonds des ménages alloués mensuellement par le gouvernement aux policiers de la Légion Nationale d'Intervention, l'ENI en sigle, déployés en Mbaou en territoire de Béni. Papy Martial Moukeba a lu pour nous la lettre d'Evariste Bouchab datée du 31 octobre 2016 adressée au commissaire général de la PNC. Suivant.
Evariste Bouchab parle du détournement à travers un mécanisme mis en place par des officiers censés assurer les commandements de la LENI déployée depuis 2014 en Mbaou, en territoire des Béni. Dans ces documents, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur citent les officiers soupçonnés d'être impliqués dans ces détournements. Il a nommé les généraux Awashango Vital, commissaire provincial de la PNC au Nord Kivu, Ngoï Sengeloa, commissaire provincial de la PNC à l'Équateur et ancien commandant de la LENI, les colonels Safari Kazingoufou, ancien commandant de la LENI en Mbaou et actuel commandant de la PNC à Béniville, et Flama Baliwa, commandant de la PNC en ville de Goma et ancien chef de la PNC à Béniville, ainsi que le major Mbala Richard, actuel commandant détachement de la LENI en Mbaou. Evariste Bouchab vient d'instruire le commissaire général de la PNC de convoquer immédiatement ses officiers à Kinshasa pour investigation et établissement des responsabilités éventuelles. Il invite également l'inspecteur général de la PNC à l'ouverture d'une enquête pour mettre à nu ses circuits de détournement. Par ailleurs, une des personnes mises mis en cause, en l'occurrence le général Awashango, que nous avons pu contacter, s'est refusé à tout commentaire sur le sujet. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Merci Papi Martial Moukeba. Alors, Luc, vous avez suivi cette actualité, vous venez d'entendre encore une fois le condensé de cette lettre-là. Comment vous analysez cette situation?
Je dis, il est bon de révéler à l'opinion les méfaits, les détournements, ainsi de suite.
Mais surtout quand ça vient de la haute hiérarchie.
Je constate en passant que les détournements, la corruption sont devenus un sport national. Alors, le premier vice-ministre, ministre de l'Intérieur, doit aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette histoire.
C'est-à-dire quoi, aller jusqu'à la fin?
Est-ce que les détournements, c'est seulement à Béni? Il faut parler avec nos frères et nos sœurs, les militaires et même les policiers. Ils souffrent des détournements de leurs chefs hiérarchiques. Il faudrait que cette occasion puisse constituer un tremplin pour que le vice-premier ministre, c'est le vice-premier ministre.
Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, voilà.
Se saisisse de ces cas pour aller dans d'autres coins du pays et dans d'autres coins où se trouvent les institutions de l'armée et de la police pour dénicher des cas pareils qui existent.
Même ici à Kinshasa?
Même ici à Kinshasa, un peu partout. Imaginez-vous ici à Kinshasa, il y a des colonels sans fonction, des capitaines sans fonction, deux majors sans fonction. Ici, il s'agit en l'occurrence des généraux, colonels, majors, ainsi de suite. Ce sont le cœur même de l'armée, c'est d'eux que doit venir l'exemple. Mais s'ils sont impliqués dans des cas de détournement, alors...
Il faut des sanctions sévères.
Il faut des sanctions sévères et exemplaires.
D'accord. Alors, Jean-Pierre, le fait que le vice-premier ministre Évariste Bouchab convoque 5 officiers supérieurs de la PNC, est-ce que c'est suffisant?
Oui, mais il y a des allégations, des détournements présumés. En droit, il y a un principe sacro-saint. Il revient à celui qui allègue le fait d'en apporter la preuve. Alléguer est une chose, prouver en est une autre. Donc, je sais que
ce sont des fonds de ménage.
Les généraux Awashang et les autres sont encore présumés innocents, mais les griefs pour lesquels...
Et aussi présumés coupables.
Les faits, présumés coupables, disais-je, les faits pour lesquels ils sont reprochés sont d'une extrême gravité. Quand on connaît que le sang a suffisamment baigné le sol bénitien et qu'il y a des individus qui, dans leurs aventures, détournent des fonds destinés à ces hommes des troupes, je crois qu'ils méritent des sanctions exemplaires s'il est avéré.
Est-ce que ça n'implique pas ou ça n'impacte pas le travail de terrain qui est la sécurisation des populations?
Oui, le fait de détourner ces fonds, évidemment que ça impacte parce que un ventre affamé n'a pas d'oreille. Ce qui fait que certains hommes des troupes affamés vont chercher à vandaliser certaines boutiques, à piller les champs et faire des actes qui ne sont pas corrects. Donc moi, je plaide pour des sanctions exemplaires. Je ne veux pas que l'on sanctionne pour faire bonne impression parce que on sait que depuis un temps, l'impunité s'est érigée en règle dans ce pays. Ça, je les reconnais en toute conscience. Mais pour des faits aussi graves qui interviennent au moment où tous nous voulons c'est que le bain de sang s'arrête dans la partie est du pays. Je sais que les 6 qui sont cités jusque-là ne sont peut-être pas les seuls et qu'il y a bien d'autres qui sont impliqués dans cette chaîne, dans ce scandale.
Comme l'a dit Luc.
Ils ne méritent pas les honneurs de la nation. Ils doivent, pour raison d'enquête, être suspendus de leurs fonctions. Et puis, s'il est avéré qu'ils sont réellement auteurs et coupables de ces infractions, qu'ils soient punis comme ça,
ça va donner une bonne leçon à tous les autres, parce qu'on sait qu'il y a énormément de choses qui se font dans l'armée, dans la police. L'argent, ça vient autant, et quand ça arrive autant, à chaque étape, on fait des coupes. Donc, ce n'est pas intéressant de voir un policier au front qui n'a pratiquement rien à manger, rien à boire, alors que la République, alors que le contribuable dépense, finance des opérations, et qu'il y a des individus qui vivent dans des bureaux climatisés. Merci. Et s'arrangent pour détourner ces fonds.
D'accord. Alors, Josca, est-ce qu'on peut s'attendre aux sanctions sévères comme soulignent Luc et Jean-Pierre?
Je veux dire que tout en saluant la décision prise par le ministre, j'imagine que c'est de la récréation. Vraiment pure récréation. Nous sommes dans un pays structuré et organisé. Il ne faut pas attendre 5 mois, 8 mois ou une année pour venir dire qu'on a détourné. Normalement, quand on est venu distribuer les vivres, quand on est venu payer les militaires, il faut qu'il y ait une structure de contrôle qui doit savoir qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, est-ce que les choses sont arrivées à destination. Et se réveiller un matin pour inviter les gens et essayer d'enquêter, il y aura des enquêtes qui n'auront pas de conclusion. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois ici, à Béni, un magistrat militaire a arrêté un officier soupçonné de distribuer les vivres des militaires. Mais qui est venu retirer le monsieur qui était soupçonné? C'est un général qui est venu retirer ce monsieur-là de la prison. Ces gens-là, quand ici il y a des tournements, ça se fait en chaîne. Ça commence à Kinshasa jusqu'ici à l'intérieur.
Mais c'est ça qu'a dénoncé finalement le vice-premier ministre Evariste. Je dis, c'est ce qu'a finalement dénoncé le vice-premier ministre Evariste Bouchab. Le détournement systématique.
Mais qu'est-ce qu'il va faire si ces gens-là sont très influents avec lui? Qu'est-ce qu'il pourra faire? Je pense qu'il ne pourra rien faire. Il faut vraiment revoir les choses. Le mal est tellement profond que penser que ce qui s'est fait à Beni, ça s'est fait partout au Congo. C'est une histoire qui s'est fait en chaîne. Il y a des opérations retour. Quand on envoie. Mais les trains de vie, la grande question qu'on devait. J'ai toujours posé la question au magistrat. Quand vous voyez quelqu'un qui touche autant d'argent, il vous allume 16, 10, 15 chantiers, 20 chantiers avec un salaire minable. Mais c'est déjà des choses qu'il fallait déjà enquêter dessus. Est-ce qu'il faut attendre vraiment qu'on vous dise qu'on détourne? Quand vous donnez à quelqu'un un montant d'argent, son train de vie est 1000 fois, 2000 fois plus que ce qu'il touche. Ça devait interpeller les décideurs. Moi, je pense que c'est déjà bien qu'il ait pensé à ça. Mais je pense que c'est la récréation.
D'accord. Et pour conclure, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission, qu'est-ce qui peut être réservé comme suite à cette affaire? Je vous sens déjà dubitatif, mais qu'est-ce qui peut être réservé comme suite à cette question de détournement des fonds?
Moi, je ne vois pas l'issue s'il n'y a pas la volonté ferme de décision au niveau du sommet de l'État. Parce que si, au niveau de l'État, on ne peut pas prendre une décision ferme, tout ce qu'on fera là, ce sera du bluff. Il faut qu'au niveau central de Kinshasa, on prenne la décision de faire en sorte que les militaires qui sont au front, les vaillants combattants, les policiers qui sont dans des zones insécurisées, rentrent dans leurs droits. Que cet argent qu'on envoie aux policiers, que cet argent qu'on envoie aux militaires, ne serve pas à engraisser les épaules galonnées. Ils construisent leurs maisons, ils multiplient le nombre de femmes, mais ainsi, alors que les voyants combattants qui sont sur le terrain n'ont pas l'argent et les sécurités continuent à faire ce bon nombre de chemins à l'est.
Merci beaucoup, ce sera aussi votre conclusion. Jean-Pierre Kaimé, en guise de conclusion, qu'est-ce qui peut être réservé comme suite à cette affaire? Vous sentez déjà dans les propos de Josca un certain doute sur l'issue heureuse de cette question.
D'abord, je reconnais qu'il y a énormément de gens qui se sont enrichis sous le dos des pauvres militaires et policiers. Là, je crois qu'il faut que ça s'arrête. On connaît des enquêtes qui ont pris des allures éternelles dans ce pays et qui n'ont jamais abouti à des résultats concrets, à des sanctions sévères. Cette affaire a été révélée sur la place publique. Je veux que le Premier ministre Bouchab aille jusqu'au bout.
Le vice-premier ministre,
même s'il ne sera pas reconduit à son poste, au nom de la continuité de l'administration, que des sanctions suivent.
Merci. Et Luc, pour conclure?
Pour conclure, je dirais que je ne suis pas sûr que ça soit de la récréation, comme l'affirme mon confrère de l'Est. Le vice-premier ministre a dit que c'est un détournement systématique et j'ajouterai que c'est un détournement structural. Donc il y a une structure qui cautionne ces détournements. C'est comme je disais tout à l'heure, le plus moche dans la vie réside dans l'inconscience délibérée de son inéluctable finitude, disait Goubaroka. Alors, moi je pense que cette affaire étant portée aux vies et au-dessus de tous, on doit aller jusqu'au bout, jusqu'à établir les responsabilités et à punir les coupables.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette tribune de presse. Héritier Tidiakal était à la prise de son. Alain Irung a coordonné cette édition supervisée par Julien Nyamweni. Berry Fonquin Luchaka vous dit merci de nous avoir suivis. Remarquez, suggestions, écrivez-nous à dec@radiocapi.net et surtout retrouvez votre émission sur www.radiocapi.net et à la semaine prochaine. Bon week-end à vous tous. Merci.